La matinale, le coup de fil.
Emmanuel Macron, président de la République française, la matinale vous propose de réfléchir aux conséquences de cette élection et nous le faisons en direct avec deux invités.
Thierry Béguin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien conseiller d'État neuchâtelois, binational et observateur attentif de la politique française. Didier Faure, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Est républicain. Alors cette élection, Thierry Béguin, comment vous l'avez ressenti? Ce résultat, un séisme pour la France?
Je me réjouis évidemment du traîné de succès d'Emmanuel Macron. On a évité la catastrophe économique et la grave altération de l'image de la France qu'eût constitué l'élection de Madame Le Pen. Mais si cette victoire est incontestable, il faut voir aussi qu'elle est un peu en trompe-l'œil. Si on considère l'abstention, si on considère les votes blancs ou nuls, c'est environ 16 millions de Français qui ont refusé de choisir. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et d'après les enquêtes d'opinion qui ont été faites depuis hier soir, le vote d'adhésion au programme d'Emmanuel Macron ne représente que 30%. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que, selon une enquête d'opinion aussi, 61% des Français ne veulent pas une majorité Macron aux législatives.
Didier Faure, vous...
C'est-à-dire qu'on va vraisemblablement se trouver avec un président de la République sans majorité.
Didier Faure, vous partagez ce diagnostic?
Oui, il y a un peu de vertige, il y a un peu de là dans tout ce qu'on a pu recueillir. Alors moi, je suis journaliste. Ce qu'on a pu recueillir comme sentiment, c'est une sorte de vertige. Alors, il y a du soulagement de la part de gens qui étaient inquiets de la montée du Front National, du vote extrême. Et un soulagement qui est effectivement teinté d'inquiétude. Voilà, soulagement inquiet, moi c'est ce que j'aurais... Je résumerai l'état d'esprit d'hier soir, de ce matin, peut-être des jours qui viennent, parce que les législatives arrivent très très vite, et puis effectivement, il y a ce risque de ne pas avoir de majorité, il y a ce risque, qu'est-ce qu'on fait de ce bras d'honneur qu'on fait beaucoup d'électeurs à la politique, aux politiciens en place, au personnel politique. Qu'est-ce qu'on fait de ces 4 millions de bulletins blancs et nuls, plus de 10 millions de voix quand même pour le Front National? Comment ça se passe dans les familles? Comment ça se passe sur les réseaux sociaux? Comment ça se passe pour tous ces gens qui font des appels au peuple et qui s'adressent à leurs chers compatriotes le soir très tard devant leurs écrans sur Facebook? Enfin, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà, là, il va falloir faire du tri.
Thierry Béguin, le paysage politique français est recomposé, voire décomposé ce matin?
Alors écoutez, ce qui m'inquiète personnellement, c'est que vraisemblablement que M. Macron n'aura pas de majorité. Alors il y a deux hypothèses. Ou bien il obtient du Parlement qui sera élu des majorités d'idées, comme le défendait Edgar Faure, sur des sujets précis. Malheureusement, je n'y crois pas trop. Quand on a vu les leaders des Républicains hier soir et M. Mélenchon, c'est plutôt un esprit de revanche des partis classiques, si vous voulez, qui représentent le clivage gauche-droite. Donc ça va être très difficile de faire des majorités d'idées. L'autre hypothèse, c'est évidemment une impossibilité de gouverner, un retour aux errements de la 4e République et un échec de M. Macron. Comme le relevait Elisabeth Guigou hier soir, c'est un boulevard ouvert pour le Front National en 2022. Donc, voilà les perspectives. Je peux me tromper. Peut-être qu'un certain bon sens et peut-être une certaine helvétisation, si vous me permettez ce terme, de la politique française, où des gens raisonnables de droite et de gauche pourraient se mettre d'accord sur de grands projets de réforme, ça pourrait sauver la mise, mais je n'y crois pas trop. Ça me paraît plutôt relever de la pensée magique.
Didier Faure, est-ce qu'Emmanuel Macron est condamné à être un président faible?
Alors l'helvétisation, de la politique française, c'est un concept assez rigolo, assez nouveau. Mais pourquoi pas, qui est souhaitable, effectivement, c'est ce que je vous disais, c'est l'inquiétude hein, on n'a pas forcément vraiment fait la fête hein, hier partout en France, si ce n'est à Paris, hein, mais moi j'ai vu les QG de campagne se vider assez vite, j'ai vu des salles des fêtes de mairie ou de dépouillement où les gens sont vite repartis chez eux, effectivement, les appareils politiques en place sont complètement déboussolés, il faut quand même être clair sur le terrain, hein, à Paris notamment, mais aussi sur le terrain. Ça veut dire qu'on prépare les législatives, mais avec quels outils, quel logiciel, quel personnel. Il y en a qui sont immédiatement ringardisés par le mouvement En Marche, hein, c'est évident. Tout le personnel politique avec des gens qui ont 30 ans, parfois 40 ans de politique, qui étaient en train d'aiguiser leur couteau pour les législatives, ils sont un peu perdus là, c'est vrai. Alors après, est-ce qu'il y a une dynamique vertueuse qui s'engage avec Emmanuel Macron? Est-ce que, comment vont se passer les ralliements? Comment les portes s'ouvrent aussi? Parce que, voilà, est-ce que certains vont réussir à mettre leurs pieds dans la porte pour pouvoir se faire une place? Est-ce que, tout ça, c'est quand même un grand point d'interrogation aujourd'hui, hein. Bon, il faut quand même pas se cacher. C'est vrai que Macron a dit lui-même qu'il aurait pas d'état de grâce. Et c'est vrai qu'il est bâché immédiatement, hein. Depuis hier soir, effectivement, Macron, c'est ceci, c'est cela, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme il aurait dit lui-même. Le bashing est déjà en marche, le Macron-bashing. Bon, après, est-ce qu'on peut imaginer qu'il aura un peu de temps quand même pour mettre en place des choses voilà, c'est vrai, il y a quand même il y a quelque chose qui est prégnant quand même, c'est que le score du Front National n'a jamais été aussi haut. Tout le monde pense à 2022, la première c'est Marine Le Pen, mais sa force politique et celle qu'elle incarne, est-ce qu'elle sera en état aussi de se recomposer? Est-ce qu'ils vont pouvoir monter un groupe parlementaire? Est-ce que toutes ces questions-là, pour l'instant, voilà, elles sont en suspens. Hein.
La matinale, le coup de fil.
De retour avec nos invités, Didier Faure, journaliste à l'Est Républicain, Thierry Béguin, ancien conseiller d'État neuchâtelois, pour commenter la victoire d'Emmanuel Macron à la présidence de la République française, son élection. Également, un bon score de la part du Front National. Un tiers des Français ont voté pour l'extrême droite. Thierry Béguin, vous partagez le diagnostic esquissé à l'instant par Didier Faure. Est-ce qu'en 2022, le FN ou Marine Le Pen a plus de chances que jamais de l'emporter?
Moi, je pense qu'il y a un risque, réel en cas d'échec d'Emmanuel Macron. Je pense que le Front National va se reconstituer. Il va y avoir aussi des règlements de compte à l'interne, parce que je ne suis pas sûr que la personnalité de Marine Le Pen soit susceptible de convaincre beaucoup. Je verrais très bien une réorganisation autour de sa nièce, qui me paraît beaucoup plus redoutable sur le plan dialectique.
Marion Maréchal Le Pen.
Marion Maréchal Le Pen, les interviews que j'ai vues d'elle, c'est quelqu'un de beaucoup plus redoutable sur le plan de l'argumentation. C'est une autre orientation, hein. Marine Le Pen, elle avait, disons, fait un copier-coller avec le programme de Mélenchon pour un certain nombre de choses, tandis que Marion Maréchal Le Pen, c'est vraiment une droite légitimiste classique, mais avec une capacité de persuasion beaucoup plus grande. Et si Macron échoue, si le peuple est désemparé, peut-être qu'il pourrait se tourner alors vers cette nouvelle leader.
Didier Faure, vous pensez également que Marion Maréchal Le Pen pourrait prendre le relais ou quelqu'un d'autre?
C'est-à-dire que laissez-moi vous expliquer mon trouble par rapport à cette formation politique qui est à la fois effectivement surreprésentée médiatiquement au niveau national et à la fois sous-représentée localement. On ne sait pas trop bien à qui on a affaire localement dans nos régions, dans nos secteurs en France. Hein, là, il y a des gens qui sortent un peu de nulle part, il y a des gens qui n'ont aucune carrière, voilà. Et bon, alors il y a quelques enracinés, il y a quelques figures du Front National enracinées. Hein, je pense à Sophie Philippe Montel, à des gens comme ça en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté. Mais voilà, c'est vrai que c'est un petit peu troublant. C'est peut-être ça. Il est peut-être là le plafond de verre aussi pour Marine Le Pen. Voilà. Alors, Marine Le Pen est populiste, est extrémiste, quoi qu'on en dise. Ça serait évidemment une très grave erreur de condamner, d'insulter, de vilipender tous les électeurs, etc. Encore une fois, on a fini de s'interroger sur ce vote populiste, extrémiste. On a compris qu'il y avait une colère, qu'il y avait un vote de rupture. On parle beaucoup d'un vote d'adhésion aujourd'hui pour le Front National, ce qui est vrai. Mais voilà, si on regarde ça sous l'angle, par exemple, des frontaliers, des travailleurs frontaliers, on a quand même bien compris que les frontaliers, cette fois-ci, n'ont pas voté extrémiste. Tout simplement parce qu'ils n'auraient pas pu continuer à traverser la frontière pour aller bosser tous les matins, quoi. Voilà. Y a des logiques comme ça qui se mettent en place. Le plafond de verre aussi, peut-être qu'il est là. Après, Marion Maréchal Le Pen, effectivement, on est beaucoup plus dans l'idéologie. Je suis pas certain que Marine Le Pen en ait une. Elle porte un nom, elle porte un héritage, elle est très forte, très, très douée, mais je suis pas certain qu'elle représente une idéologie extrême. Voilà.
Messieurs, est-ce que c'est la fin de la Ve République ? Est-ce qu'on est dans une dynamique qui va mener à une réforme constitutionnelle en France ? Thierry Béguin, votre avis ?
Écoutez, je n'en sais rien, je ne le souhaite pas. Je pense que les institutions de la Ve République, jusqu'à présent, ont démontré leur efficacité. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu des personnages d'envergure suffisante pour les habiter, ces institutions. Mais moi, je reste attaché quand même, et ça correspond aussi à l'esprit français d'avoir un chef de l'État qui est au-dessus des partis et qui représente la France et qui conduit sa politique étrangère, notamment. Pour moi, la Sixième République de Monsieur Mélenchon, c'est la quatrième bis, c'est-à-dire l'impuissance à gouverner. On le voit d'ailleurs, et aux législatives, les projections qu'on a actuellement, on retrouvera les quatre blocs qu'on a eu au premier tour. Et sur ces quatre blocs, il y en a deux qui font 50%, c'est le populisme de droite et c'est le populisme de gauche. Alors dans ces conditions, je pense qu'il faut un exécutif fort, il faut un président de la République qui sache incarner la nation. Il n'est pas impossible que M. Macron sache incarner la nation. En tout cas, le premier discours qu'il a fait hier soir le laissait espérer.
Didier Faure, une Sixième République, ça vous paraît être une possibilité ?
Oui, c'est pas du tout le projet que porte Emmanuel Macron. Hein. Lui, comme le dit l'interlocuteur, en fait, il a l'air de vouloir incarner immédiatement cette espèce de personnage hors sol qui, effectivement, représentera la nation, ce fameux rendez-vous entre un homme et une nation et un peuple.
Un peu de nouveau
debout. Il a l'air de vouloir se montrer. Ah, c'est très gaullien, ouais, très gaullien, bien sûr. Ouais. D'ailleurs, tout le monde était très gaullien pendant cette campagne.
Tout le monde se découvre gaulliste, c'est marrant.
Je ne suis pas sûr que le De Gaulle lui-même se serait reconnu, mais en tout cas, Macron, bah, peut-être qu'on peut effectivement lui laisser le crédit d'avoir envie de perpétuer cette Ve République.
Didier Faure, Thierry Béguin, merci d'avoir été nos invités. Merci de cet éclairage ce matin. Bonne journée à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.